là-dedans. Si l'on mettait à se cacher autant de soins qu'on en met d'ordinaire à se montrer, on éviterait bien des peines. J'en fis de bonne heure une première expérience. C'était un jour de pluie. J'avais reçu en cadeau tout un attirail de postillons, casquettes, fouets, guides et grelots. Il y avait beaucoup de grelots. J'attelais, c'est moi que j'attelais à moi-même, car j'étais tout ensemble, le postillon, les chevaux et la voiture. Mon parcours s'étendait de la cuisine à la salle à manger par un couloir. Cette salle à manger me représentait très bien une place de village. Le buffet d'acajou où je relayais me semblait sans difficulté l'auberge du Cheval Blanc. Le couloir m'était une grande route avec ses perspectives changeantes et ses rencontres imprévues. Confiné dans un petit espace sombre, je jouissais d'un vaste horizon et j'éprouvais entre des murs connus ces surprises qui font le charme des voyages. C'est que j'étais alors un grand magicien. J'évoquais pour mon amusement des êtres aimables et je disposais à souhait de la nature. J'ai eu depuis le malheur de perdre ce don précieux. J'en jouissais abondamment dans ce jour de pluie où je fus postillon. Cette jouissance aurait dû suffire à mon contentement, mais est-on jamais content? L'envie me vint de surprendre, d'éblouir, d'étonner des spectateurs. Ma casquette de velours et mes grelots ne m'étaient plus de rien si personne ne les admirait. Comme j'entendais mon père et ma mère causer dans la chambre voisine, j'y entrais avec un grand fracas. Mon père m'examina pendant quelques instants, puis il haussa les épaules et dit « Oh, cet enfant ne sait que faire ici, il faut le mettre en pension. »« Il est encore bien petit, » dit ma mère. « Eh bien, » dit mon père, « on le mettra avec les petits. » Je n'entendis que trop bien ces paroles. Celles qui suivirent m'échappèrent en partie, et si je peux les rapporter exactement, c'est qu'elles m'ont été répétées plusieurs fois de pluie. Mon père ajouta, « Cet enfant, qui n'a ni frère ni sœur, développe ici dans l'isolement un goût de rêverie qui lui sera nuisible par la suite. » La solitude exalte son imagination, et j'ai observé que déjà sa tête était pleine de chimères. Les enfants de son âge, qu'il fréquentera à l'école, lui donneront l'expérience du monde. Il apprendra d'eux ce que sont les hommes. Il ne peut l'apprendre de vous et de moi, qui lui apparaissons comme des génies tutélaires. Ses camarades se comporteront avec lui comme des égaux, qu'il faut tantôt plaindre et défendre, tantôt persuader ou combattre, il fera avec eux l'apprentissage de la vie sociale. « Mon ami, dit ma mère, ne croyez-vous pas que parmi ces enfants, il y en ait de mauvais ?»« Les mauvais eux-mêmes, répondit mon père, lui seront utiles s'il est intelligent, car il apprendra à les distinguer des bons, et c'est une connaissance fort nécessaire. » D'ailleurs, vous visiterez vous-même les écoles du quartier, vous choisirez une maison fréquentée par des enfants dont l'éducation correspond à celle que vous avez su donner à Pierre. La nature des hommes est partout la même, mais leur nourriture, comme disaient nos anciens, diffère beaucoup d'un lieu à un autre. Une bonne culture, pratiquée depuis plusieurs générations, produit une fleur d'une extrême délicatesse, et cette fleur, qui a coûté un siècle à former, peut se perdre en peu de jours. Des enfants incultes feraient par leur contact dégénérer sans profit pour eux la culture de notre fils. La noblesse des pensées vient de Dieu. Celle des manières s'acquiert par l'exemple et se fixe par l'hérédité. Elle passe en beauté la noblesse du nom. Elle est naturelle et se prouve par sa propre grâce, tandis que l'autre se prouve par des vieux papiers qu'on ne sait comment débrouiller. Mais vous avez raison, mon ami, répondit ma mère. J'irai dès demain à la recherche d'une bonne pension pour notre enfant. Je choisirai comme vous dites, et je m'assurerai qu'elle est prospère, car les soucis d'argent détournent l'esprit du maître et aigrissent son caractère. Que pensez-vous, mon ami, d'une pension tenue par une femme ? Mon père ne répondait point. « Qu'en pensez-vous ? » répéta ma mère. « Oh, c'est un point qu'il faut examiner, » dit mon père. Assis dans son fauteuil et devant son bureau à cylindre, il examinait depuis quelques instants une espèce de petit os pointu d'un bout et tout frustre de l'autre. Il le roulait dans ses doigts, certainement il le roulait aussi dans sa pensée, et dès lors, avec tous mes grelots, je n'existais plus pour lui. Ma mère, accoudée au dossier du fauteuil, suivait l'idée qu'elle venait d'exprimer. Le docteur lui montra le vilain petit os et dit « Voici la dent d'un homme qui vécut au temps du mammouth, pendant l'âge des glaces dans une caverne jadis nue et désolée. Maintenant à demi couverte de vignes vierges et de giroflées, et près de laquelle s'élève depuis plusieurs années cette jolie maison blanche que nous habitâmes pendant 2 mois d'été, l'année de notre mariage. Ce furent 2 mois heureux. Comme il s'y trouvait un vieux piano, tu y jouais du Mozart tout le jour, ma chérie, et grâce à toi, une musique spirituelle et charmante qui s'envolait par les fenêtres animait cette vallée où l'homme de la caverne n'avait entendu que les miaulements du tigre. Ma mère posa sa tête sur l'épaule de mon père, qui continua ainsi. Cet homme ne connaissait que la peur et la faim. Il ressemblait à une bête. Son front était déprimé. Les muscles de ses sourcils formaient en se contractant de hideuses rides. Ses mâchoires faisaient sur sa face une énorme saillie, ses dents avançaient hors de sa bouche. Voyez, comme celle-ci est longue et pointue. Telle fut la première humanité, mais insensiblement par de lents et magnifiques efforts, les hommes devenus moins misérables devinrent moins féroces, leurs organes se modifièrent par l'usage. L'habitude de la pensée développa le cerveau et le front s'agrandit. Les dents, qui ne s'exerçaient plus à déchirer la chair crue, poussèrent moins longues dans la mâchoire moins forte. La face humaine prit une beauté sublime et le sourire naquit sur les lèvres de la femme. Ici, mon père baisa la joue de ma mère qui souriait. Puis, élevant lentement au-dessus de sa tête la dent de l'homme des cavernes, il s'écria « Vieil homme, nous revoici la rue des farouches reliques. Ton souvenir me remue dans le plus profond de mon être. Je te respecte et t'aime, ah mon aïeul. Reçois dans l'insondable passé où tu reposes l'hommage de ma reconnaissance, car je sais combien je te dois. Je sais ce que tes efforts m'ont épargné de misère. Tu ne pensais point à l'avenir, il est vrai. Une faible lueur d'intelligence vacillait dans ton âme obscure. Tu ne pus guère songer qu'à te nourrir et à te cacher. Tu étais homme pourtant. Un idéal confus te poussait vers ce qui est beau et bon aux hommes. Tu vécus misérablement, oui. Tu ne vécus pas en vain. Et la vie que tu avais reçue, si affreuse, tu l'as transmise un peu moins mauvaise à tes enfants. Ils travaillèrent à leur tour à la rendre meilleure. Tous ils ont mis la main aux arts. L'un inventa la meule, l'autre la roue. Ils se sont tous ingéniés et l'effort continue de tant d'esprit à travers les âges a produit des merveilles qui maintenant embellissent la vie. Et chaque fois qu'ils inventaient un art ou fondaient une industrie, ils faisaient naître par cela même des beautés morales et créaient des vertus. Ils donnèrent des voiles à la femme, et les hommes connurent le prix de la beauté. Ici, mon père posa sur son bureau la dent préhistorique, et il embrassa ma mère. Il parlait encore, il disait, Ainsi, nous leur devons tout à ces ancêtres, tout et même à l'amour. Je voulus toucher cette dent qui avait inspiré à mon père des paroles que je ne comprenais pas. Je m'approchai du bureau pour la saisir. Mais au bruit que firent mes grelots, mon père tourna la tête de mon côté, me regarda gravement et dit « Tout beau, la tâche n'est pas finie. Nous serions moins généreux que les hommes des cavernes si, notre tour étant venu, nous ne travaillions pas à rendre à nos enfants la vie plus sûre et meilleure qu'elle n'est pour nous-mêmes. Il est deux secrets pour cela, aimer et connaître. Avec la science et l'amour, on fait le monde. » Sans doute, mon ami, dit ma mère, mais plus j'y songe, plus je me persuade que c'est à une femme qu'il faut confier un petit garçon de l'âge de notre Pierre. J'ai entendu parler d'une demoiselle Lefort. J'irai la voir demain. La révélation de la poésie. Mademoiselle Lefort, qui tenait dans le faubourg Saint-Germain une pension pour des enfants en bas âge, consentit à me recevoir de 10 heures à midi et de 2 heures à 4. Je m'étais fait par avance une idée affreuse de cette pension, et quand ma bonne m'y traîna pour la première fois, je me jugeais perdu. Aussi, je fus extrêmement surpris, en entrant, de voir dans une grande chambre 5 ou 6 petites filles et 12 de petits garçons qui riaient, faisaient des grimaces et donnaient toutes sortes de signes de leur insouciance et de leur espièglerie. Je les jugeais bien endurcis. Je vis par contre que Mademoiselle Lefort était profondément triste. Ses yeux bleus étaient humides et ses lèvres entrouvertes. De pâles boucles à l'anglaise pendaient le long de ses joues, comme au bord des eaux les branches mélancoliques des saules. Elle regardait sans voir et semblait perdue dans un rêve. La douceur de cette demoiselle affligée et la gaieté des enfants m'inspirèrent de la confiance. À la pensée que j'allais partager le sort de plusieurs petites filles, peu à peu, toutes mes craintes s'évanouirent. Mademoiselle Lefort, m'ayant donné une ardoise avec un crayon, me fit asseoir à côté d'un garçon de mon âge qui avait les yeux vifs et l'air fin. « Je m'appelle Fontanet, me dit-il, et toi ?» Puis il me demanda ce que faisait mon père. Je lui dis qu'il était médecin. « Oh, le mien est avocat, » répondit Fontanet. « C'est mieux. Pourquoi ?» « Ben, tu vois pas que c'est plus joli d'être avocat ?»« Non. Alors, c'est que t'es bête. » Fontanet avait l'esprit fertile. Il me conseilla d'élever des vers à soie et me montra une belle table de Pythagore qu'il avait faite lui-même. J'admirais Pythagore et Fontanet. Moi, je ne savais que des fables. En partant, je reçus de Mademoiselle Lefort un bon point dont je ne pus plus parvenir à découvrir l'usage, mais ma mère m'expliqua que n'avoir point d'utilité était le propre des honneurs. Elle me demanda ensuite ce que j'avais fait dans cette première journée. Je lui répondis que j'avais regardé Mademoiselle Lefort. Elle se moqua de moi, mais j'avais dit la vérité. J'étais enclin de tout temps à prendre la vie comme un spectacle. Je n'ai jamais été un véritable observateur, car il faut à l'observation un système qui la dirige, et je n'ai point de système. L'observateur conduit sa vue, le spectateur se laisse prendre par les yeux. Je suis né spectateur, et je conserverai, je crois, toute ma vie, cette ingénuité des badauds de la grande ville, que tout amuse et qui garde dans l'âge de l'ambition la curiosité des intéressés des petits-enfants. De tous les spectacles auxquels j'ai assisté, le seul qui m'est ennuyé est celui qu'on a dans les théâtres en regardant la scène. Au contraire, les représentations de la vie m'ont toutes diverti, à commencer par celle que j'eus dans la pension de Mademoiselle Lefort. Je continuai donc à regarder ma maîtresse, et me confirmant dans l'idée qu'elle était triste, je demandai à Fontanet d'où venait cette tristesse. Sans rien affirmer de positif, Fontanet l'attribuait au remords et croyait bien se rappeler qu'elle fut subitement imprimée sur les traits de Mademoiselle Lefort au jour, déjà ancien, où cette personne lui confisqua sans nul droit une toupie de buis et commit presque aussitôt un nouvel attentat. Car pour étouffer les plaintes de celui qu'elle avait spolié, elle lui enfonça le bonnet d'âne sur la tête. Fontanet concevait qu'une âme souillée de ces actes-là eût perdu à jamais la joie et le repos. Mais les raisons de Fontanet ne me suffisaient pas et j'en cherchais d'autres. Il était difficile, à vrai dire, de chercher quelque chose dans la classe de Mademoiselle Lefort à cause du tumulte qui y régnait sans cesse. Les élèves s'y livraient de grands combats devant Mademoiselle Lefort, visible mais absente. Nous nous jetions les uns aux autres tant de catéchisme et de croûte de pain que l'air en était obscurci et qu'un crépitement continu remplissait la salle. Seuls les plus jeunes enfants, les pieds dans les mains et la langue tirée hors la bouche, regardaient le plafond avec un sourire pacifique. Soudain, Mademoiselle Lefort, entrant dans la mêlée d'un air de somnambule, punissait quelque innocent, puis elle rentrait dans sa tristesse comme dans une tour. Faites réflexion, je vous prie, à l'état d'esprit d'un petit garçon de 8 ans, qui, au milieu de cette agitation incompréhensible, écrit depuis 6 semaines sur une ardoise. La faim mit au tombeau, malfilâtre ignoré. C'était là ma tâche. Par moments, je me pressais la tête dans les mains pour contenir mes idées, mais une seule était distincte, l'idée de la tristesse de Mademoiselle Lefort. Je m'occupais sans cesse de ma désolée maîtresse. Fontanet augmentait ma curiosité par d'étranges récits. Il contait qu'on ne pouvait passer le matin devant la chambre de Mademoiselle Lefort sans entendre des cris lamentables mêlés à des bruits de chaîne. « Je me rappelle, ajouta-t-il, qu'il y a longtemps, un mois peut-être, elle lut à toute la classe en sanglotant une histoire qu'on croit être en vers. » Il y avait dans le récit de Fontanet une expression d'horreur qui me pénétra. J'eus lieu de penser dès le lendemain que ce récit n'était pas imaginaire, du moins quant à la lecture à haute voix, car pour ce qui est des chaînes qui faisaient pas lire Fontanet... Je n'en ai jamais rien su, et je suppose aujourd'hui que le bruit de ces chaînes était en réalité un bruit de pelle et de pincettes. Le lendemain, voici ce qui eut lieu. Mademoiselle Lefort frappa sur sa table avec une règle pour obtenir le silence. Toussa et dit d'une voix sourde « Pauvre Jeanne !» Après une pause, elle ajouta « Des vierges du hameau, Jeanne était la plus belle. » Fontanet me donna un coup de coude dans la poitrine en lançant un rire en fusée. Mademoiselle Lefort lui jeta un regard indigné, puis d'une voix plus triste que les psaumes de la pénitence, elle continua l'histoire de la pauvre Jeanne. Il est probable et même certain que cette histoire était en vers d'un bout à l'autre, mais je suis bien forcé de la conter comme je l'ai retenue. On reconnaîtra, j'espère, dans ma prose, les membres épars du poète dispersé. Jeanne était fiancée. Elle avait engagé sa foi à un jeune et vaillant montagnard. Oswald était le nom de cet heureux pasteur. Déjà, tout est préparé pour l'hyménée, les compagnes de Jeanne lui apportent le voile et la couronne. Heureuse Jeanne, mais une langueur l'envahit, ses joues se couvrent d'une pâleur mortelle. Oswald descend de la montagne, il accourt et lui dit « N'es-tu pas ma compagne ? Elle répond d'une voix éteinte. Cher Oswald, adieu, je meurs. Pauvre Jeanne. Le tombeau fut son lit nuptial, et les cloches du hameau qui devaient sonner pour son hymen sonnèrent pour ses funérailles. Il y avait dans ce récit un grand nombre de termes que j'entendais pour la première fois et dont je ne savais pas la signification, mais l'ensemble m'en sembla si triste et si beau que je ressentis à l'entendre un frisson inconnu. Le charme de la mélancolie m'était révélé par une trentaine de vers dont j'aurais été incapable d'expliquer le sens littéral. C'est que, à moins d'être vieux, on n'a pas besoin de beaucoup comprendre pour beaucoup sentir. Les choses obscures peuvent être des choses touchantes, et il est bien vrai que le vague plaît aux jeunes âmes. Les larmes jaillirent de mon cœur trop plein, et Fontanet ne put, ni par ses grimaces, ni par ses moqueries, arrêter mes sanglots. Pourtant, je ne doutais pas alors de la supériorité de Fontanet. Il a fallu qu'il devint sous-secrétaire d'État pour m'en faire douter. Mes larmes furent agréables à Mademoiselle Lefort. Elle m'appela auprès d'elle et me dit « Pierre Nozière, vous avez pleuré. Voici la croix d'honneur. Apprenez que c'est moi qui ai fait cette poésie. J'ai un gros cahier rempli de vers aussi beau que cela, mais je n'ai pas encore trouvé l'éditeur pour les imprimer. Cela n'est-il pas horrible et même inconcevable ?»« Oh, mademoiselle, lui dis-je, je suis bien content. Je sais maintenant la cause de votre chagrin. Vous aimez la pauvre Jeanne qui est morte dans le hameau, et c'est parce que vous pensez à elle, n'est-ce pas, que vous êtes triste et que vous ne vous apercevez jamais de ce que nous faisons dans la classe. » Malheureusement, ces propos lui déplurent, car elle me regarda avec colère et dit « Jeanne est une fiction, vous êtes un sot. Rendez cette croix et retournez à votre place. » Je retournai à ma place en pleurant. Cette fois, c'est sur moi que je pleurais, et j'avoue que ces nouvelles larmes n'avaient pas cette espèce de douceur qui s'était mêlée à celle que la pauvre Jeanne m'avait tirée. Une chose augmentait mon trouble, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une fiction. Fontanet ne le savait pas davantage. Je le demandai à ma mère quand je fus de retour à la maison. « Oh, une fiction ?» me répondit ma mère. « C'est un mensonge. »« Oh, maman, lui dis-je, c'est un malheur que Jeanne soit un mensonge. » »« Quelle Jeanne ?» demanda ma mère. « Des vierges du hameau, Jeanne était la plus belle. » Et je contai l'histoire de Jeanne telle qu'elle me restait dans l'esprit. Ma mère ne me répondit rien, mais je l'entendis qui disait à l'oreille de mon père « Quelle pauvreté on apprend à cet enfant !»« Oh, ce sont en effet de grandes pauvretés, » dit mon père. « Que voulez-vous aussi qu'une vieille fille entende la pédagogie ?»« J'ai un système d'éducation que je vous exposerai un jour. D'après ce système, il faut apprendre à un enfant de l'âge de notre Pierre les mœurs des animaux auxquels il ressemble par les appétits et par l'intelligence. Pierre est capable de comprendre la fidélité d'un chien, le dévouement d'un éléphant, les malices d'un singe. C'est cela qu'il faut lui conter, et non cette Jeanne, ce hameau et ces cloches qui n'ont pas le sens commun. Vous avez raison, répondit ma mère. L'enfant et la bête s'entendent fort bien, ils sont tous deux près de la nature. Mais croyez-moi, mon ami, il y a une chose que les enfants comprennent mieux encore que les ruses des singes. Ce sont les belles actions des grands hommes. L'héroïsme est clair comme le jour, même pour un petit garçon. Et si l'on raconte à Pierre la mort du chevalier d'Assas, il la comprendra avec l'aide de Dieu, comme vous et moi. Hélas, soupira mon père, je crois au contraire que l'héroïsme s'entend de diverses façons selon les temps, les lieux et les personnes. Mais il n'importe, ce qui importe dans le sacrifice, c'est le sacrifice lui-même. Si l'objet pour lequel on se dévoue est une illusion, le dévouement n'en est pas moins une réalité. Et cette réalité est la plus splendide parure dont l'homme puisse décorer sa misère morale. Cher ami, votre générosité naturelle vous a fait comprendre ces vérités mieux que je ne les comprenais moi-même avec le secours de l'expérience et de la réflexion. Je les ferai entrer dans mon système. Ainsi disputaient le docteur et ma mère. 8 jours après, j'écrivais pour la dernière fois sur mon ardoise, au milieu du tumulte, « La faim mit au tombeau, malfilâtre ignoré. » Fontanet et moi, nous quittâmes ensemble la pension de Mademoiselle Lefort. Teutobochus. Il ne me paraît pas possible qu'on puisse avoir l'esprit tout à fait commun si l'on fut élevé sur les quais de Paris, en face du Louvre et des Tuileries, près du palais Mazarin, devant la glorieuse rivière de Seine qui coule entre les tours, les tourelles et les flèches du vieux Paris. Là, de la rue Guénegaud à la rue du Bac, les boutiques des libraires, des antiquaires et des marchands d'estampes étaient à profusion les plus belles formes de l'art et les plus curieux témoignages du passé. Chaque vitrine est, dans sa grâce bizarre et son pêle-mêle amusant, une séduction pour les yeux et pour l'esprit. Le passant qui sait voir en emporte toujours quelque idée, comme l'oiseau s'envole avec une paille pour son nid. Puisqu'il y a là des arbres avec des livres, et que des femmes y passent, c'est le plus beau lieu du monde. Au temps de mon enfance, bien plus encore qu'à présent, ce marché de la curiosité était abondamment fourni de meubles anciens, d'estampes anciennes, de vieux tableaux et de vieux livres, de crédences sculptées, de potiches à fleurs, d'émaux, de faïences décorées, d'or froid, d'étoffes brochées, de tapisseries à personnages, de livres à figures et d'éditions princes reliées en maroquin. Ces aimables choses s'offraient à des amateurs délicats et savants auxquels les agents de change et les actrices ne les disputaient point encore. Elles étaient déjà familières à Fontanet et à moi, quand nous avions encore des grands cols brodés, des culottes courtes et des mollets nus. Fontanet demeurait au coin de la rue Bonaparte, où son père avait son cabinet d'avocat. L'appartement de mes parents touchait à une des ailes de l'hôtel de Chimay. Nous étions, Fontanet et moi, voisins et amis. En allant ensemble les jours de congé jouer aux Tuileries, nous passions par ce docte qu'est Voltaire, et là, cheminant, un cerceau à la main et une balle dans la poche, nous regardions aux boutiques, tout comme les vieux messieurs, et nous faisions à notre façon des idées sur toutes ces choses étranges venues du passé, du mystérieux passé. Et oui, nous flânions, nous boutiquions, nous examinions les images. Cela nous intéressait beaucoup, mais Fontanet, je dois le dire, n'avait pas comme moi le respect de toutes les vieilleries. Il riait des antiques plats à barbe et des saints évêques dont le nez était cassé. Fontanet était dès lors l'homme de progrès que vous avez entendu à la tribune de la Chambre. Ses irrévérences me faisaient frémir. Je n'aimais point qu'il appelât tête de pipe les portraits bizarres des ancêtres. J'étais conservateur. Il m'en est resté quelque chose, et toute ma philosophie m'a laissé l'ami des vieux arbres et des curés de campagne. Je me distinguais encore de Fontanet par un penchant à admirer ce que je ne comprenais pas. J'adorais les grimoires, et tout, ou peu s'en faut, mettait grimoire. Fontanet, au contraire, ne prenait plaisir à examiner un objet qu'autant qu'il en concevait l'usage. Il disait « Tu vois, il y a une charnière, cela s'ouvre, il y a une vis, cela se démonte. » Fontanet était un esprit juste. Je dois ajouter qu'il était capable d'enthousiasme en regardant des tableaux de bataille. Le passage de la Bérézina lui donnait de l'émotion. La boutique de l'armurier nous intéressait l'un et l'autre. Quand nous voyions au milieu des lances, des larges, des targes, des cuirasses et des rondaches, M. Petit Prêtre, revêtu d'un tablier de serge verte, s'en aller, boitant comme Vulcain, prendre au fond de l'atelier une antique épée qu'il posait ensuite sur son établi et qu'il serrait dans un étau de fer pour nettoyer la lame et réparer la poignée, nous avions la certitude d'assister à un grand spectacle. Monsieur Petit Prêtre nous apparaissait haut de 100 coudées. Nous restions muets, collés à la vitre. Les yeux noirs de Fontanet brillaient et toute sa petite figure brune et fine s'animait. Le soir, ce souvenir nous exaltait beaucoup et mille projets enthousiastes germaient dans nos têtes. Fontanet me dit une fois, « Si, avec du carton et le papier couleur d'argent qui enveloppe le chocolat, nous faisions des armes semblables à celles du petit prêtre. L'idée était belle, mais nous ne parvînmes pas à la réaliser convenablement. Je fis un casque que Fontanet prit pour un bonnet de magicien. Alors je dis, et si nous fondions un musée ? Excellente pensée, mais nous n'avions pour le moment à mettre dans ce musée qu'un demi-cent de billes et une douzaine de toupies. C'est à ce coup que Fontanet eut une troisième conception. Il s'écria, composons une histoire de France, avec tous les détails, en 50 volumes. Cette proposition m'enchanta, et je l'accueillis avec des battements de mains et des cris de joie. Nous convînmes que nous commencerions le lendemain matin, malgré une page du De Viris que nous avions à apprendre. Tous les détails, répéta Fontenay, il faut mettre tous les détails. C'est bien ainsi que je l'entendais, tous les détails. On nous envoya coucher. Mais je restais bien un quart d'heure dans mon lit sans dormir, tant j'étais agité par la pensée sublime d'une histoire de France en 50 volumes avec tous les détails. Nous la commençâmes, cette histoire. Je ne sais ma foi plus pourquoi nous la commençâmes par le roi Teutobochus. Mais telle était l'exigence de notre plan. Notre premier chapitre nous mit en présence du roi Teutobochus, qui était haut de 30 pieds, comme on put s'en assurer, en mesurant ses ossements retrouvés par hasard. Dès le premier pas, affronter un tel géant, la rencontre était terrible. Fontanet lui-même en fut étonné. « Oh, il faut sauter par-dessus Teutobochus, me dit-il. » Je n'osais point. L'histoire de France en 50 volumes s'arrêta à Teutobochus. Que de fois, hélas, j'ai recommencé dans ma vie cette aventure du livre et du géant. Que de fois, sur le point de commencer une grande œuvre ou de construire une vaste entreprise, je fus arrêté net par un Teutobochus, nommé vulgairement sort, hasard, nécessité. J'ai pris le parti de remercier et de bénir tous ces Teutobochus qui, me barrant les chemins hasardeux de la gloire, m'ont laissé à mes deux fidèles gardiennes l'obscurité et la médiocrité. Elles me sont douces, toutes deux, et même, il faut bien que je le leur rende. Quant à Fontanet, Mon subtil ami Fontanet, avocat, conseiller général, administrateur de diverses compagnies, député. C'est merveille de le voir se jouer et courir entre les jambes de tous les teutobocus de la vie publique, contre lesquels à sa place, je me serais mille fois cassé le nez. Le prestige de Monsieur l'abbé Jubal. C'est le cœur gros de crainte et d'orgueil que j'entrais en 8e préparatoire. Le professeur de cette classe, Monsieur l'abbé Jubal, n'était pas bien terrible par lui-même. Il n'avait pas l'air d'un homme cruel. Il avait plutôt l'air d'une demoiselle. Mais il se tenait dans une grande chaire haute et noire, et cela me le rendait effrayant. Il avait la voix et le regard doux, les cheveux bouclés, les mains blanches, l'âme bienveillante. Il ressemblait à un mouton, plus peut-être qu'il n'était séant à un professeur. Ma mère, l'ayant vu un jour au parloir, murmura « Oh, il est bien jeune !» Et cela était dit d'un certain ton. Je commençais à ne plus le craindre quand je me vis contraint de l'admirer. Cela arriva pendant que je récitais ma leçon, qui consistait en des vers de l'abbé Gautier sur les premiers rois de France. Je disais chaque vers tout d'une haleine, et comme s'il eût été fait d'un mot unique. Pharamond fut dit-on le premier de ses rois, que les Francs dans la Gaule ont mis sur le pavois, Clodion prend Cambrai, puis règne Mérové. Là, je m'arrêtais court et répétais Mérové, Mérové, Mérové. Cette rime, mêlant l'utile à l'agréable, me rappela que lorsque régna Mérové, Lutèce fut préservée. Mais de quoi? Il m'était bien impossible de le dire, l'ayant complètement oublié. La chose, je l'avoue, m'avait peu frappé. J'avais l'idée que Lutèce était une vieille dame. J'étais content qu'il eût été préservé, mais ses affaires m'intéressaient en somme extrêmement peu. Malheureusement, monsieur l'abbé Jubal semblait tenir beaucoup à ce que je disais, de quel dommage elle avait été préservée. Je faisais « Mérové, J'aurais donné ma langue au chat pour peu que c'en eût été l'usage dans la classe de 8e préparatoire. Mon voisin Fontanet se moquait de moi et M. Jubal se limait les ongles. Enfin, des fureurs d'Attila, Lutèce est préservée, me dit-il. Puisque vous y aviez oublié ce vers, M. Nozière, il fallait le refaire au lieu de rester court. Vous pouviez dire de l'invasion d'Attila, Lutèce est préservée, ou bien du sombre Attila, Lutèce est préservée, ou plus élégamment, du fléau de Dieu, Lutèce est préservée. On peut changer les mots, pourvu qu'on respecte la mesure. » J'eus un mauvais point, mais monsieur l'abbé Jubal acquit un grand prestige à mes yeux par sa facilité poétique. Ce prestige devait croître encore. Monsieur Jubal, que ses fonctions attachaient à la grammaire de Noël et Chapsal et à l'histoire de France de l'abbé Gautier, ne négligeait pourtant pas l'enseignement moral et religieux. Un jour, je ne sais à quel propos, il prit un air grave et nous dit « Mes enfants, s'il vous fallait recevoir un ministre, vous vous empresseriez de lui faire les honneurs de votre logis comme un représentant du souverain. Eh bien, quels hommages ne devez-vous pas rendre aux prêtres qui représentent Dieu sur la terre? Autant Dieu est au-dessus des rois, autant le prêtre est au-dessus des ministres. » Je n'avais jamais reçu de ministre et ne comptais pas en recevoir de longtemps. J'avais même la certitude que, s'il en venait un à la maison, ma mère m'enverrait dîner ce jour-là avec les bonnes, comme cela se pratiquait malheureusement à chaque repas de gala. je n'en comprenais pas moins que les prêtres sont prodigieusement respectables, et faisant à M. Jubal l'application de cette vérité, je ressentis un grand trouble. Je me rappelais avoir, en sa présence, attaché un pantin de papier dans le dos de Fontanet. Cela était-il respectueux? Aurais-je attaché un pantin de papier dans le dos de Fontanet devant un ministre? Assurément non. Et pourtant, je l'avais attaché, ce pantin, à l'insu, il est vrai, mais en la présence de M. l'abbé Jubal, qui est au-dessus des ministres. Même il tirait la langue, le pantin. Mon âme était éclairée. Je vécus bourrelé de remords. Ma résolution fut d'honorer M. l'abbé Jubal, et s'il m'arriva depuis de fourrer des petits cailloux dans le cou de Fontanet pendant la classe et de dessiner des bons hommes sur la chair romaine de l'abbé Jubal, je le fis du moins avec la satisfaction de connaître toute l'étendue de ma faute. Il me fut donné à quelque temps de là de mesurer la grandeur spirituelle de M. l'abbé Jubal. J'étais dans la chapelle, attendant avec deux ou trois camarades mon tour de me confesser. Le jour baissait. La lueur de la lampe perpétuelle faisait trembler les étoiles d'or de la voûte assombrie. Au fond du cœur, la Vierge peinte s'effaçait dans le vague d'une apparition. L'autel était chargé de vases dorés pleins de fleurs. Une odeur d'encens flottait dans l'air. On entrevoyait confusément mille choses, et l'ennui même, ce grand mal des enfants, prenait une teinte douce dans l'atmosphère de cette chapelle. Il me semblait que du côté de l'autel, elle touchait au paradis. Le jour était tombé, et tout à coup, je vis M. l'abbé Jubal s'avancer avec une lanterne jusqu'au cœur. Il fit une génuflexion profonde, puis, ouvrant la grille, il monta les degrés de l'autel. Je l'observai. Il défit un paquet d'où sortir des guirlandes de fleurs artificielles qui ressemblaient à ces tirses de cerises qu'au mois de juillet de vieilles femmes vous vendaient dans les rues. Et je m'émerveillais de voir mon professeur s'approcher de l'Immaculée Conception. Vous mîtes une pincée de pointe dans votre bouche, monsieur l'abbé, et je craignais d'abord que ce ne fût pour les avaler, mais c'était pour les tenir à portée de votre main. Car vous montâtes sur un escabeau et vous commençâtes à clouer les guirlandes autour de la niche de la Sainte Vierge. Mais vous descendiez de temps en temps de votre escabeau pour juger à distance de l'effet de votre ouvrage, et vous en étiez content. Vos joues étaient rouges, votre œil était clair. Vous eussiez souri sans les pointes que vous teniez entre vos dents. Et moi, je vous admirais de tout mon cœur. Et bien que la lanterne qui était à terre vous éclaira les narines d'une façon comique, je vous trouvais très beau. Je compris que vous étiez au-dessus des ministres, comme vous nous l'aviez insinué dans un discours habile. Je pensais que monter tout empanaché sur un cheval blanc pour gagner une bataille n'était pas une chose aussi belle et désirable que de suspendre des guirlandes au mur d'une chapelle. Je connus que ma vocation était de vous imiter. Je vous imitais dès le soir même à la maison, en découpant avec les ciseaux de ma mère tout le papier que je pus trouver et dont je fis des guirlandes. Mes devoirs en souffrir. Mon exercice français en souffrit notamment dans des proportions considérables. C'était un exercice d'après le manuel d'un monsieur Croquempeau dont le livre était un livre cruel. Venez point de rancune, et si cet auteur avait eu un nom moins mémorable, je l'aurais généreusement oublié. Mais on n'oublie pas Croquempeau. Je ne veux pas abuser contre lui de cette circonstance fortuite. Pourtant, qu'il me soit permis de m'étonner qu'il faille faire des exercices si douloureux pour apprendre une langue qu'on nomme maternelle et que ma mère m'apprenait fort bien, seulement en causant devant moi. Car elle parlait à ravir ma mère. Mais M. l'abbé Jubal était pénétré de l'utilité de Cocampo, et comme il ne pouvait entrer dans mes raisons, il me donna un mauvais point. L'année scolaire s'acheva sans incident notable. Fontanet se mit à élever des chenilles dans son pupitre, alors j'en élevai aussi par amour propre, bien qu'il me fît horreur. Fontanet haïssait Cocampo, et cette haine nous réunit. Au seul nom de Cocampo, nous échangions sur nos bancs des regards d'intelligence et des grimaces expressives. Cela nous vengeait. Fontanet me confia que si l'on faisait encore du Cocampo en 8e, il s'engageait comme mousse sur un grand navire. Cette résolution me plut et je promis à Fontanet de m'engager avec lui. Nous nous jurâmes amitié. Le jour de la distribution des prix, nous étions méconnaissables, Fontanet et moi. Cela tenait sans doute à ce que nous étions peignés. Nos vestes neuves, nos pantalons blancs, la tente de Coutil, l'affluence des parents, l'estrade ornée de drapeaux, tout cela m'inspirait l'émotion des grands spectacles. Les livres et les couronnes formaient un amas éclatant dans lequel je cherchais anxieusement à deviner ma part et je frissonnais sur mon banc. Mais Fontanet, plus sage, n'interrogeait pas la destinée. Il gardait un calme admirable, tournant dans tous les sens sa petite tête de furet. Il remarquait les nez difformes des pères et les chapeaux ridicules des mères, avec une présence d'esprit dont j'étais incapable. La musique éclata. Le directeur, ayant sur sa soutane le petit manteau de cérémonie, parut sur l'estrade aux côtés d'un général en grand uniforme et à la tête des professeurs. Je les reconnus tous. Ils prirent place, selon leur rang, derrière le général, d'abord le sous-directeur, puis les professeurs des hautes classes, puis M. Schubert, professeur de solfège, M. Trouillon, professeur d'écriture, et le sergent Morin, professeur de gymnastique. M. l'abbé Jubal parut le dernier et s'assit tout au fond sur un pauvre petit tabouret qui, faute de place, ne posait que de 3 pieds sur l'estrade et crevait la toile avec le 4e. Encore, M. l'abbé Jubal ne put-il garder longtemps cette humble place. Des nouveaux venus le refoulèrent dans un coin où il disparut sous un drapeau. On mit une table sur lui et ce fut tout. Fontanet s'amusa beaucoup de cette suppression. Pour moi, j'étais confondu qu'on laissât ainsi dans un coin, comme une canne ou un parapluie, une personne qui excellait dans les fleurs et la poésie et représentait Dieu sur la terre. La casquette de Fontanet. Chaque samedi, on nous menait à la confesse. Si quelqu'un peut me dire pourquoi, il me fera plaisir. Cette pratique m'inspirait beaucoup de respect et d'ennui. Je ne crois pas que M. l'aumônier prît un véritable intérêt à entendre mes péchés, mais il m'était certainement désagréable de les lui dire. La première difficulté était de les trouver. Vous me croirez peut-être si je vous déclare qu'à 10 ans, je ne possédais pas les qualités psychiques et les méthodes d'analyse qui m'eussent permis d'explorer rationnellement ma conscience interne. Pourtant, il fallait avoir des péchés, car point de péché, point de confession. On m'avait donné, il est vrai, un petit livre qui les contenait tous. Je n'avais qu'à choisir. Mais le choix même était difficile. Il y en avait latent et de si obscur sur le larcin, la simonie, la prévarication, la fornication et la concupiscence. Je trouvais dans ce petit livre « Je m'accuse d'avoir désespéré, Je m'accuse d'avoir entendu de mauvaises conversations. Cela encore ne laissait pas de m'embarrasser beaucoup. C'est pourquoi je m'en tenais d'ordinaire au chapitre des distractions. Distraction à l'office, distraction pendant les repas, distraction dans les assemblées, j'avouais tout, et le vide déplorable de ma conscience m'inspirait une grande honte. J'étais humilié de n'avoir pas de péché. Un jour, enfin, je songeais à la casquette de Fontanet. Ah, je tenais mon péché, j'étais sauvé. À côté de ce jour, je me déchargeais chaque samedi au pied de M. l'aumônier du poids de la casquette de Fontanet. Par la façon dont j'endommageais en elle le bien du prochain, cette casquette m'inspirait chaque samedi, pendant quelques minutes, de vives inquiétudes sur le salut de mon âme. Je la remplissais de sable, je la jetais dans les arbres, d'où il fallait l'abattre à coups de pierre comme un fruit avant sa maturité. J'en faisais un chiffon pour effacer les figures à la craie sur le tableau noir. Je la jetais par un soupirail dans des caves inaccessibles, et lorsqu'au sortir de la classe, l'ingénieux Fontanet parvenait à la retrouver, ce n'était plus qu'un lambeau sordide. Mais une fée veillait sur sa destinée, car elle reparaissait le lendemain matin sur la tête de Fontanet, avec l'aspect imprévu d'une casquette propre, honnête, presque élégante. Et cela tous les jours. Cette fée était la sœur aînée de Fontanet. À ce seul trait, on peut l'estimer bonne ménagère. Plus d'une fois, tandis que je m'agenouillais au pied du sacré tribunal, la casquette de Fontanet plongeait de mon fait au fond du bassin de la cour d'honneur. Il y avait alors, dans ma situation, quelque chose de délicat. Mais quel sentiment m'animait contre cette casquette ? La vengeance. Fontanet me persécutait à cause d'une gibecière de forme antique et bizarre que mon oncle, homme économe, m'avait donnée pour mon malheur. Elle était beaucoup trop grande pour moi, et j'étais beaucoup trop petit pour elle. De plus, cette gibecière ne ressemblait pas à une gibecière par la raison que ce n'en était pas une. C'était un vieux portefeuille qui se tirait comme un accordéon et auquel le cordonnier de mon oncle avait mis une courroie. Ce portefeuille m'était odieux, non sans raison. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il fût assez laid pour mériter les indignités qu'on lui fit. Il était de maroquin rouge à large dentelle d'or et portait au-dessus d'une serrure de cuivre une couronne et des armoiries lacérées. Une soie passée, qui avait été bleue, le tapissait intérieurement. S'il existait encore, avec quelle attention je l'examinerais. Car, à me rappeler la couronne qui devait être une couronne royale et l'écu sur lequel on voyait encore, à moins que je ne l'aie rêvé, trois fleurs de lys mal effacées à coups de canif, je soupçonne aujourd'hui ce portefeuille d'avoir été à l'origine le portefeuille d'un ministre de Louis XVI. Mais Fontanet, qui ne le considérait point dans son passé, ne pouvait me le voir au dos sans y jeter des boules de neige ou des marrons d'Inde, selon la saison, et des balles élastiques toute l'année. Dans le fait, mes camarades et Fontanet lui-même n'avaient qu'un seul grief contre ma gibecière, son étrangeté. Elle n'était pas comme les autres, de là tous les maux qu'elle m'a causés. Les enfants ont un sentiment brutal de l'égalité. Ils ne souffrent rien de distinct ni d'original. C'est ce caractère que mon oncle n'avait pas assez observé quand il me fit son pernicieux présent. La gibecière de Fontanet était affreuse, ses deux frères aînés l'ayant traînée tour à tour Sur les bancs du lycée, elle ne pouvait plus être salie. Le cuir en était tout écorché, crevé. Les boucles disparues étaient remplacées par des ficelles. Mais comme elle n'avait rien d'extraordinaire, Fontanet n'en éprouva jamais de désagrément. Et moi, quand j'entrais dans la cour de la pension, mon portefeuille au dos, j'étais immédiatement assourdi par des huées, entouré, bousculé, renversé à plat ventre. Fontanet appelait ça là me faire faire la tortue. Il montait sur ma carabasse. Il n'était pas bien lourd, mais j'étais humilié. Aussitôt remis debout, je sautais sur sa casquette. Sa casquette était toujours neuve et ma gibecière indestructible, hélas. Et nos violences s'enchaînaient par une inexorable fatalité, comme les crimes dans l'antique maison des Atrides.